Bonjour, je suis David Manise, anthropologue, instructeur de survie et mouton à cinq pattes professionnel. Vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 31. Aujourd'hui, j'interview Rémi, qui est médecin anesthésiste dans un CHU, dans une clinique du nord de la France, et qui va nous parler de longévité. Longévité dans le sens de comment on fait pour vivre vieux, longévité dans le sens de comment on fait pour vivre bien pendant longtemps, longévité dans le sens de qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et ne pas faire pour avoir une bonne santé pendant de nombreuses décennies. Vous attendez pas à des recettes magiques, à des trucs de hacking de dingue, à des méthodes super compliquées. On part sur un podcast où on va parler et expliquer pourquoi les choses de base et de très gros bon sens fonctionnent toujours aussi bien. Loin des podcasts états-uniens où on vous expliquerait potentiellement comment faire dans le détail pour micromanager votre nutrition, votre sommeil, vos neuromodulateurs. Là, on part plutôt sur les grosses poutres basiques. Sur laquelle après on pourra venir poser potentiellement de la finition, mais c'est vraiment le gros œuvre et le plus important en premier. Ce podcast se divise en deux parties. Aujourd'hui, c'est la première partie qui dure déjà un bon long moment. Discussion super riche et super intéressante. Et comme on est resté sur notre fin, Rémi et moi, il y a la deuxième partie qui arrive d'ici quelques semaines. Alors ce podcast date un peu, il a été enregistré en décembre et j'ai pas eu le temps de le monter correctement avant aujourd'hui, donc c'est ma faute. Ceci dit, je pense que ça vaut le coup quand même de le publier parce que c'est encore tout à fait actuel et très 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 pertinent en termes d'outils et de comment faire concrètement pour vivre vieux en bonne santé quoi. Donc à vous de voir si le côté un peu après rébarbatif du truc vous décourage ou si vous avez décidé plutôt de prendre votre santé en main. Petit coup de culpabilisation avant de commencer, ça fait du bien. Allez, à toutes. Ouais. Ah ouais, je comprends.
Premier truc.
Je comprends bien. Bon, du coup, bonjour Rémi.
Salut David.
Et merci d'être venu, d'avoir répondu à mon invitation. On est tous les deux aujourd'hui de manière désintéressée en train de vouloir aborder un sujet qui, à mon sens, est hyper important. Parce qu'on s'est dit qu'on ferait un sujet, tous les deux, sur la longévité, en fait, et quels sont les outils qui nous permettent de vivre plus vieux et surtout de vivre en bonne santé pendant longtemps, quoi. Mais avant qu'on aborde tout ça, j'aimerais bien, si tu veux bien, que tu te présentes vite fait, en disant un peu qui t'es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fous là,
bien sûr. Tout ça, tu vois. Bien sûr, David, bien sûr. Alors moi, je me prénomme Rémi. Je suis médecin anesthésiste au CHU de Lille. J'ai 43 ans. Je suis de nature curieuse et dans toutes mes aventures de vie, on s'était rencontrés et où j'avais fait des stages au CETS qui m'avaient bien plu. Depuis, on a gardé un peu de contact un peu au fil de l'eau. En devenant jeune adulte, j'ai commencé naturellement à m'intéresser à la qualité de vie, à découvrir comment s'épanouir dans la vie. Les premiers trucs, ça a été l'alimentation, la nutrition, des choses qui intéressent beaucoup de gens, hein, je pense, la nutrition. Et petit à petit, j'avance vers les mêmes des constatations partagées avec plein de gens sur comment essayer de vivre longtemps en bonne santé pour profiter de la vie et de ses côtés cool. Tu sais que ça m'intéresse, donc on a dit qu'on pouvait faire une discussion là-dessus.
Ouais, carrément. Et je pense qu'il y a vraiment matière à faire, déjà à tordre le cou à plusieurs lieux communs. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'en général, dans mes formations, quand je dis un truc, les gens, ils écoutent, tu vois. Il y a pas beaucoup de pushback parce que je pense que je suis un peu peur. Et surtout, en général, quand les gens se pointent en formation, ils viennent pour apprendre des trucs et quand ils sont pas d'accord avec moi, ils vont me le dire gentiment, poliment à la pause, tu vois. Mais Ça arrive assez rarement que les gens soient pas d'accord ouvertement avec moi, et c'est un des trucs que j'ai le plus apprécié chez toi, c'est que quand je disais un truc avec lequel t'étais pas d'accord, tu levais la main, tu disais, mais non, je suis pas d'accord avec ça, et tu me balançais des sources. Mais sérieusement, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié parce que si on n'accepte pas ça en formation et en tant que formateur, on devient très vite très bête, tu vois.
Ouais, c'est cool.
Et
Après,
les mises à jour d'infos, ben c'est comme ça qu'elles ont lieu. Bien souvent, c'est juste ben je dis une connerie et il faut me rectifier. Tu vois. Et du coup, on n'était pas d'accord sur pas plein de trucs, mais sur certains sujets, notamment l'alimentation cétogène, notamment
oui.
des trucs comme ça. Moi, je disais à l'époque encore, je dormirai quand je serai mort. Et toi, tu m'as dit, ouais, mais gros, faudrait peut-être dormir 8-9 heures par nuit, ça serait bien. Tu aurais
Ouais.
besoin de moins de café, tu vois. Bref. Pas mal de trucs au final j'ai appliqué dans ce que tu me disais et qui ont carrément bien fonctionné d'ailleurs, notamment le sommeil.
Je suis touché. Je suis touché. C'est une petite utilité avec le chef de la survie. Si je prolonge la vie du chef de la survie, on va prolonger beaucoup de vie par ricochet.
Ben espérons, espérons. Du coup ouais c'est hyper intéressant parce que en fait, enfin. Là, tu t'es présenté vite fait et j'aurais bien aimé creuser plus, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va aller droit dans le vif du sujet, si tu veux bien. Il y a plein de choses, tu vois, que ma mère m'a cassé les pieds. Genre, il faut dormir, il faut se coucher tôt, il faut manger des légumes, enfin, tous les trucs de base que ma mère m'a dites, en gros. Tu m'as redit pareil, mais avec des études scientifiques à l'appui, tu vois, quasiment. Et en fait, je trouve ça à la fois très frustrant et très fascinant. Et je trouve qu'il y a, il y a, il y a, enfin, il y a peu de, il y a peu de trucs super importants pour faire une grosse différence dans notre qualité de vie, dans notre longévité au final, si je résume. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Peu de choses, ouais, et puis des choses pas sexy. Donc c'est ce qui rend le sujet difficile parce que je crois que la nature humaine cherche des raccourcis, des hacks. Toujours tricher, c'est toujours gagner, n'est-ce pas? Donc on connaît tous les grands principes de manger sainement, varié, de dormir suffisamment, d'être actif, mais aussi de savoir se reposer, d'éviter de fumer, d'éviter l'alcool en excès ou l'alcool tout court même. Et tous ces trucs-là, on fait, ouais, ça va, je sais. Mais bon, peut-être que si je mange comme ci, comme ça, ou que si je fais du sport hyper intense un coup de temps en temps, ça va compenser et finalement je vais avoir le même état de santé tout en ayant pu profiter de petits plaisirs ou vices, selon comment vous voyez les choses. Et c'est l'un des grandes difficultés de convaincre les gens pour qu'ils s'approprient des habitudes de vie qui peuvent leur être utiles et saines, c'est que c'est que c'est pas sexy, c'est que c'est très basique.
Tu me disais la dernière fois qu'on s'est vu, enfin la dernière, la seule fois qu'on s'est vu, parce que sauf erreur, on s'est vu qu'une fois, peut-être deux.
Ouais, en vrai de vrai, ouais.
Tu me disais, enfin, de quoi les gens meurent en fait quand tu récupères des gens dans ta clinique et qui passent sur le billard et que tu fais le chaman, c'est-à-dire que tu les envoies dans l'autre monde et que tu les ramènes, hein, presque. Ces gens-là, ils ont quoi, de manière générale? Qu'est-ce qui tue les gens? Qu'est-ce qui les handicape? Qu'est-ce qui abîme les humains là aujourd'hui en 2023?
Ah bah ça, c'est la question qui permet de faire du reverse engineering sur les choses qu'on veut éviter. Donc ta question, elle est super. Et les grandes maladies que l'on voit chez tous les gens les plus abîmés par la vie, c'est quand même les maladies cardiovasculaires. C'est quand même, dans notre monde, c'est le tueur numéro un. Tueur numéro deux, les cancers, avec au premier rang les cancers du sein, du poumon, mais les grandes maladies qu'on connaît, malheureusement, parfois à travers nos proches. Et sinon, plus scientifiquement, les études, c'est clairement cela qui prédomine. Et enfin, plus difficile, plus loin des yeux, plus difficile à palper, à percevoir, c'est tout ce qui est troubles neurodégénératifs et les démences, qui, quand le cerveau ne va plus, C'est terrible à dire, mais on n'a pas de ressources vraiment efficaces pour que les choses s'améliorent. Et la qualité de vie, je pense qu'elle n'y est vraiment plus. Et c'est une des maladies compliquées sur lesquelles je suis pas expert, hein, mais qui font vraiment peur. Et à travers ces trois grands tueurs, ces trois grands groupes de maladies, on peut trouver des passerelles maléfiques, hein, des choses néfastes, des traits communs de physiopathologie, comme on dit, de mécanismes qui expliquent les maladies. Et entre autres, il y a des traits communs à travers des dysfonctionnements du métabolisme. Hein. C'est pas le mécanisme explicatif, hein, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on trouve à travers toutes ces trois grands groupes de maladies souvent des gens dont le métabolisme marche pas de façon normale déjà et optimale encore moins.
Et c'est quoi le problème de métabolisme commun à ces trois facteurs-là,
ben,
à ces trois causes de mortalité-là, pardon.
Bon, si on reste dans des trucs un peu simples, la grande idée pour expliquer le métabolisme, je dirais que c'est notre gestion de l'énergie, en gros, hein, l'énergie qu'on absorbe, des briques d'énergie qu'on sait nous-mêmes fabriquer et ou qu'on sait nous-mêmes utiliser. Et à partir du moment où notre utilisation, notamment de l'énergie qu'on absorbe, devient moins efficiente, moins efficace, ça va avoir des tas de conséquences microscopiques, hein, au niveau cellulaire, vraiment en échelle infime, qui petit à petit s'accumulent, petit à petit entraînent des dégradations de tas de structures dans nos tissus, des protéines qui se déforment, d'accumulation de corps cellulaires, de débris cellulaires dégueulasses. Et tout cet encrassement, si vous voulez, de notre système énergétique peut faire basculer les gens, selon leur terrain, selon leur environnement, vers ces trois grandes maladies, ces trois grands tueurs dont on a parlé juste avant, quoi.
Du coup, si je... Ah là, tu me brosses un tableau un peu généraliste, mais dans le concret, il y a quoi qui se passe au niveau métabolique? C'est quoi? Des grosses variations du taux de glucose, par exemple, dans le sang, de la glycémie, qui vont faire que ça endommage des neurones, ou ça endommage, ou ça crée de l'inflammation, ou ça crée plein de soucis. C'est quoi en fait si on rentre un peu dans le comment ça marche et puis sous le capot là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on sait déjà?
Tu vas me pousser dans mes retranchements, et comme je déteste dire des bêtises ou faire semblant de dire des choses que je maîtrise, on va être très prudent. Ce que je comprends, c'est qu'effectivement on n'arrive plus à utiliser. Les gens qui ont un métabolisme qui défaille, notamment, ont beaucoup de mal à brûler du gras, hein, dans nos sources d'énergie qu'on a naturellement, et ont une tendance à utiliser plus facilement du glucose et par les voies de combustion rapide du glucose, qu'on appelle la glycolyse, plutôt que de transformation du sucre très rapide avec que quelques réactions chimiques, plutôt qu'une utilisation plus lente où on consomme de l'oxygène, etc. Et l'un des problèmes d'être peu efficace pour brûler du gras gentiment et brûler du sucre trop rapidement, c'est qu'on s'épuise assez vite au moindre effort, à la moindre demande d'activité en plus, que ce soit une activité musculaire ou que notre corps ait besoin de guérir, de cicatriser un truc, de corriger quelque chose, de rétablir la balance. Chaque fois, ça lui demande des efforts compliqués et avec des conséquences effectivement vraiment au niveau moléculaire, des petites modifications qui vont avoir tendance à s'accumuler et au final faire déréguler des systèmes qui étaient auparavant bien équilibrés commencent à travailler en mode dégradé. Et petit à petit, on va glisser dans la maladie pure et dure. Et l'illustration de ça, c'est le fameux scientifique Inigo San Milan, là, qui est un scientifique qui travaille pas mal là-dessus et qui entraîne aussi beaucoup de grands sportifs de haut niveau, qui a fait des études intéressantes sur la dérégulation de ça. Et il montre que des sportifs de très haut niveau, donc niveau élite internationale, donc vraiment un infime pouillème de la population à laquelle il est un peu illusoire d'espérer ressembler, savent brûler du gras très très longtemps sur des efforts qui restent encore très très intenses. Et de ce fait-là, on a moins besoin de recourir à ces systèmes de combustion rapide du glucose, et ou de façon plus tardive. Il a comparé ça à des gens qui étaient en sport entraînés, genre moi, par exemple. La population ressemblait, c'était des quarantenaires entraînés du week-end, quoi. Et à des gens qui étaient vraiment très sédentaires ou prédiabétiques. Et à chaque fois, on voyait que pour il nous a tracé des graphes, il faudrait coller un lien sur le podcast pour que les gens aillent voir l'illustration. Mais les sportifs amateurs, bon, ils savaient bien brûler du gras, mais assez vite quand même, fallait recourir beaucoup au glucose. Et les problèmes des gens sédentaires avec des débuts de troubles métaboliques, des prédiabètes, et dans le diabète de type 2 carrément comme ça, juste faire un effort type marche, ça les met dans une contrainte pour tout leur corps qui ressemble à ce que des mecs du Tour de France font quand ils sont à bloc dans l'école. Donc c'est dire que ça va être très compliqué de réentraîner ces gens à l'effort, parce que juste marcher, ils sont déjà à bloc. Et donc ça dit, alors que c'est quand même normalement naturel pour nous de marcher, à quel point leur métabolisme s'est dégradé et est devenu peu efficient pour utiliser l'énergie qu'ils ont en eux et où qu'ils absorbent. Et je trouve que c'était une bonne illustration scientifique du dysfonctionnement du métabolisme chez des gens trop sédentaires, voire en ce qu'on appelle le syndrome métabolique, quoi.
Alors, on ne sait pas forcément exactement dans le détail comment ça se passe, mais on connaît quand même les remèdes, ou en tout cas les manières de prévenir ces états-là.
Ah ouais.
À savoir bouger.
Oui, oui.
Régulièrement, et faire de l'endurance, quoi.
Imbattable. Marcher.
Et est-ce qu'il y a un intérêt à marcher le ventre vide, tu vois, à marcher à jeun?
Alors, sur le plan physiologique, ce que j'ai lu, moi, sur le sujet, qui était avec une optique de performance sportive sur l'entraînement à jeun, c'est hétérogène. En gros, il y a des mecs qui trouvent que ça peut être un catalyseur de l'amélioration du fait de brûler du gras, et d'autres disent « bof ». En fait, il y a toujours un piège dans ces études-là, où les gens qui s'intéressent à ça, et qu'on va retrouver dans des études mises en avant par des gens low carb ou des gens qui mangent plus du tout de sucre et qui vivent, voire même en cétose, hein, qui est un sujet qui t'intéresse, c'est que lorsque le corps utilise ce qu'il a facilement et rapidement disponible. Donc quand t'es à jeun, oui, t'as plus d'acide gras libre dans le plasma, dans le sang, donc naturellement, tu vas plus les utiliser. Et donc si tu fais marcher des gens à jeun sur un tapis roulant dans un laboratoire et que tu mesures leur consommation de gras, tu vas dire « Ah, mais c'est formidable, ils brûlent vachement de gras !» Mais c'est tout à fait logique, parce que,
il y a que ça,
c'est ça qui est dispo. Si on leur avait donné un petit déjeuner, ils auraient brûlé du gras et du sucre, parce qu'il y avait du sucre qui était aussi immédiatement disponible. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont complètement inefficaces et inefficients. Et d'ailleurs, les grands sportifs qui sont hyper bons à brûler du gras, ils sont aussi hyper bons à utiliser leur sucre. Bon, je dirais qu'il faut voir le métabolisme sur un truc plus global, et que les deux carburants, ou trois carburants pour les gens qui aiment les cétones, ont tous des intérêts à des moments divers, et qu'il n'y en a pas tellement un qui serait supérieur aux autres pour mieux vivre. On a ces deux systèmes, voire trois. Moi, je considère la cétose comme un backup. Mais on a tous ces systèmes pour que le corps les utilise à bon escient au bon moment. Et je pense que bien souvent, même un peu tout le temps, si on est humble et honnête, le corps marche mieux qu'on imagine. Et nous, essayer de manipuler ça, c'est un peu une espèce de de crime prométhéen, je sais pas comment dire, où on voudrait jouer au dieu qui comprend le mieux le vivant. Alors, le vivant est d'une telle complexité que lorsqu'on croit bouger un levier, on n'est vraiment pas sûr de ce qui se passe. Et c'est valable aussi pour la médecine, hein, très honnêtement,
Ah
ce
ben
que
oui,
je
bien sûr.
dis.
Moi,
Mais
je suis complètement d'accord avec ça, hein. Juste, j'ai l'impression, enfin, mon vécu et mon impression et mes lectures vont un peu dans le même sens, c'est que notre alimentation, quand elle est trop riche en sucre et en sucre rapide, fait qu'on a toujours, plus ou moins du sucre rapide disponible. Et si en plus on est sédentaire, ben on se retrouve à avoir jamais besoin d'utiliser du gras, en fait.
Ouais.
Et j'ai l'impression, mon hypothèse, hein, c'est que peut-être les filières métaboliques de la lipolyse et de la cétose, entre guillemets, s'atrophient, tu vois, elles sont plus forcément très utilisées. Du coup, je pense qu'il y a une économie d'énergie à faire pour le corps de désactiver ces filières-là ou de pas produire les enzymes nécessaires, tu vois. Et que du coup, bah, c'est une
Ça
faculté
s'atrophie,
qui s'atrophie et que du coup, on la perd petit à petit parce qu'on l'utilise pas, tu vois.
ouais.
Et qu'il
Ouais.
suffit de quelques jours ou quelques semaines à aller se forcer à les utiliser pour les remettre en route, et après on est polycarburant de nouveau, tu vois.
Après, je voudrais rappeler si on est un peu normal, on dort un tiers de la journée et que pendant ce tiers-là, ok, on peut digérer, mais on va pas être en train de boulotter du coca pendant qu'on dort. En tout cas, quand on dort et ou quand on a des moments de non-accès à la nourriture, là, par définition, on va brûler, enfin, pas par définition, mais physiologiquement, on va brûler du gras, hein.
Bien sûr. Ouais, parce qu'en gros, on va utiliser du sucre disponible tant qu'on a du sucre qui circule en gros dans le sang et qu'on a des réserves de glycogène. Mais
Glycogène, ouais.
une fois que c'est terminé, bah, le foie continue de fabriquer du glucose avec un peu tout ce qui passe. Mais est-ce que, enfin ouais, après la lipo, enfin dès qu'on bouge, en tout cas, surtout dans un effort aérobique, donc. Sous le seuil anaérobique, tu vois, en mode endurance cool, j'ai l'impression qu'on fonctionne essentiellement avec du gras, hein, sauf si on vient de bouffer une pâte de fruits, tu vois, mais.
Ben, si on est un peu entraîné et ou sain, oui. Après, quand on mesure, on est surpris de à quel point on commence vite à brûler du sucre si on monte un tout petit peu l'effort, hein. Au final, bon, je voudrais pas qu'on fasse un podcast que de physiologie de l'effort, et je suis pas non plus physiologiste de l'effort, mais au repos, on est du genre à être à 50-50 en train de brûler du sucre et du gras, en fait, hein, au repos, hein. Et donc, on peut, si on est sportif bien entraîné, au démarrage d'un effort, un effort très doux, marche, endurance vraiment hyper facile, à peine essoufflé, ou en tout cas pouvoir bien parler, faire des longues phrases, en faisant l'effort, on peut augmenter un peu le gras, et on va, en quantité, augmenter la quantité de gras que l'on brûle. En proportion, ça va toujours rester assez modeste, et c'est très vite le sucre qui va prendre de plus en plus de place, parce qu'au final, au niveau biochimique, c'est quand même plus rapide, plus efficient de produire de l'énergie avec du sucre par rapport au gras. L'avantage du gras, et comme tout à chacun sait, c'est qu'on en a plein de stocks et que l'on peut tenir très longtemps.
Pardon. Et je pense que, enfin, mon impression, parce que j'avais fait un test d'effort et ils m'ont mesuré mes taux de, les proportions de carburant, là, et puis ils ont halluciné parce que bon, ils m'ont vu arriver avec mes bourrelets et tout, et ils ont dit bon, celui-là, il doit avoir un pied dans la tombe, tu vois, et il doit brûler que du sucre. Et en fait, ils ont été surpris parce que je brûlais, enfin pas comme les athlètes de haut niveau, mais je brûlais énormément de
C'était
gras par
bon.
rapport au sucre. Et alors que j'étais pas à jeun, hein, j'avais mangé, c'était là en après-midi, donc j'avais mangé un petit peu à midi. Je petit déjeune quasiment jamais, mais je mange le midi, tu vois. Et puis, en fait, bon, ça reste anecdotique, mais j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui peut se développer si on le fait souvent, et c'est quelque chose que moi je fais assez régulièrement, à juste marcher le ventre vide, tu vois, aller marcher 2, 3 heures le matin, sans rien manger, comme ça j'ai l'impression que ça optimise ce truc-là, mais peut-être que c'est comme on sait.
Mais alors là, il faut avoir toujours énormément d'humilité et savoir dire que tout le monde est différent. Enfin, ça, c'est vraiment, j'en force des portes ouvertes. Mais quand les gens vous disent ça, c'est la solution, ça, c'est la panacée. Ouais, moi, j'ai arrêté de manger que ceci, ou moi, j'ai mangé que des protes, ou moi, j'ai mangé que du gras, ou moi, que truc. C'est bien mignon, mais tout le monde est différent, quoi. Et peut-être que la médecine n'a pas su non plus être assez humble à ce sujet, et peut-être que ce serait trop démoralisant pour les gens de savoir vraiment les choses, mais franchement, on bouge des leviers à l'échelle, on bouge les choses à l'échelle de population, mais avec nos traitements, nos médicaments, on change peu les choses à l'échelle d'un individu. Et pour la nourriture, c'est pareil, les études nutritionnelles sont souvent un peu tarabiscotées, difficiles à faire, etc. Ouais. Et quand on a des témoignages individuels comme le tien qui disent, ben, moi, pour moi, je me sens vraiment mieux, j'ai l'impression que ça marche pour moi, et ben, super. Parce que ça, si c'est un message que je voulais faire passer en discutant avec toi, c'est que apprendre à se connaître, le fameux connais-toi toi-même, savoir des choses qui nous font du bien, savoir les choses qui nous font du mal, que ce soit des personnes qui nous font du bien, des aliments qui nous font du bien, des activités qui nous font du bien, ou au contraire des trucs qui nous font du mal, c'est hyper important, je trouve, pour s'épanouir dans la vie. Et donc sans être complètement autoritaire pour dire il faut absolument marcher à jeun ou pas pour améliorer les choses, si toi c'est cool et que ça te convient, et ben go quoi. À fond.
Ouais, ben c'est un peu c'est un peu la même conclusion à laquelle j'arrive aussi, c'est que je pense que il y a autant de physiologie et enfin que d'individus en fait, et que c'est hyper difficile de faire des règles générales. Mais ouais. Mon but en poussant un peu la discussion, c'est d'essayer de comprendre les principes qui sont derrière pour voir qu'est-ce qui s'applique ou pas dans certains cas, tu vois. Et je pense que ça, on est toujours un mélange de plusieurs filières et de plusieurs trucs et de plusieurs systèmes, et qu'il y en a qui sont plus facilement accessibles et d'autres moins, et on a tous des corps différents et des préférences.
J'aurais glissé sur ce sujet et glissé un peu sur de la médecine juste pour donner expliquer un concept que je trouve intéressant et voilà. Je voudrais pas effrayer les gens, mais voilà. Par exemple, quand les gens ont fait un accident vasculaire cérébral, on sait que l'aspirine est un médicament utile pour éviter une récidive. L'aspirine a des vertus de fluidification du sang, ça empêche les plaquettes de s'agréger et donc de former des caillots et potentiellement de limiter le risque de récidive d'un AVC. Plein de belles études, grosse cohorte, ça veut dire beaucoup de gens, très bien faites, etc. Et si on fait des stats pour savoir à combien de personnes qui ont fait un AVC, donc déjà qu'on a bien cerné, combien de personnes faut-il donner de l'aspirine pour essayer d'éviter un AVC? Eh ben, le chiffre, il est vachement élevé, alors que c'est des médicaments connus, utiles, puissants, efficaces. C'est de l'ordre de 80. Ça, on peut discuter la subtilité à plus ou moins quelques personnes, mais t'imagines que quand il y a 100 personnes, enfin, il faut voir 80 personnes qui ont fait un AVC, hein, donner de l'aspirine à 80 personnes pour qu'il y en ait une qui évite quelque chose.
Ah oui, ok.
Et ça, on le comprend pas toujours très bien. Donc, comme quand on dit ce médicament abaisse de 20% le risque de refaire un infarctus, c'est parce qu'il faut qu'on vous donne 100 personnes, et que dans ces 100 personnes qui ont déjà fait un infarctus, il y en a 20 qui vont sans doute l'éviter grâce au médicament, grâce au traitement. Et donc, quand on dit baisse de 20%, c'est impossible de transférer des études sur des populations sur un risque individuel. Donc, c'est une passerelle avec ce qu'on dit sur le métabolisme. Ouais. C'est que tout le monde est différent et qu'on a encore... Si on tend vers une médecine personnalisée à s'adapter à chaque personne, les études sont toujours sur des populations. Il faut essayer de translater ces connaissances sur des populations à des individus. Et c'est là où je pense qu'il faut rester humble et que en médecine, on est obligé d'être prudent au fond de nous-mêmes.
Ouais, et c'est un truc, moi j'avais halluciné, j'ai discuté avec un autre ami médecin qui s'appelle Jacques, et lui il est cardiologue, et il me parlait de ça justement, tu vois, il me disait, mais en fait nous on sait pas exactement comment ça fonctionne, on n'a pas d'idée forcément de la causalité entre un truc et un autre, on a des corrélations. C'est-à-dire que on sait que si tu manges une poignée de cacahuètes tous les jours, s'il y a 100 personnes pardon qui mangent tous une poignée de cacahuètes tous les jours, ben il y en a 10 qui vont pas faire d'infarctus ou 5 qui vont pas faire d'infarctus. Donc toi mange des cacahuètes tous les jours, mais si ça se trouve ça ne servira à rien. Et on ne sait pas justement dire qu'est-ce qui fonctionne pour qui et pourquoi et comment. Et ça c'est ma, je pense que c'est ma grande frustration parce que moi j'aime comprendre comment ça marche.
Ouais.
Et j'ai envie d'avoir pas forcément pour hacker, mais pour mieux comprendre et mieux maîtriser le truc si je peux, tu vois. Et c'est une frustration permanente chez moi.
Mais là, je te rassure, moi, je suis comme toi et j'arrive à vivre avec.
Oui.
Et il faut tout simplement revenir à des choses hyper globales, hyper simples et sur lesquelles tout le monde est d'accord et sans qu'on sache toujours tous les mécanismes, on va être pragmatique et on va savoir que ça marche, tu vois. Il y a des consensus, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour dire que dormir suffisamment, bouger gentiment, régulièrement, apporte un bénéfice sanitaire certain. Et il va pas y avoir besoin de trouver exactement le nombre de minutes de sommeil par nuit. La quantité hyper précise d'activité physique qu'il faut faire, c'est d'avoir le chiffre magique de ouais, il faut que je fasse 150 minutes d'endurance par semaine et 60 minutes de muscu par semaine, ça va être pile poil ça qu'il faut, la bonne balance entre temps investi et récompense sanitaire. Mais au final, on s'en fout, c'est dès le début qu'on commence à faire ces choses un peu bien qu'on a un énorme bénéfice.
Ouais.
Dans le sens où quelqu'un qui est sédentaire, s'il commence juste à marcher, il va drastiquement abaisser son risque de maladie cardiovasculaire, drastiquement abaisser son risque de cancer. Après, d'essayer d'aller dans les pouillèmes de gains et tout, quand t'as déjà une vie équilibrée, bah, ça peut être rigolo, on peut tendre au jeu avec ça, on peut le gamifier. Mais, en tout cas, l'un de mes messages, c'est que les gens que vous entendez sur le net, que vous lisez sur Facebook ou ailleurs, ou que sais-je, qui vont avoir des certitudes, qui vont vous dire tel complément alimentaire va améliorer ça chez vous, super, ma life, je suis plus beau, je suis plus fort. Ça, c'est toujours être du bullshit. Toujours. Les gens qui ne prennent pas de précautions oratoires, qui vous vendent un concept de santé, méfiance.
Ouais, et puis, enfin, j'ai l'impression que s'il y a un truc qu'on trouve pas en médecine et dans les études sur la physiologie, c'est des certitudes, quoi. Parce que, enfin, j'ai commencé à éplucher la littérature sur plein de sujets, et tu trouves une étude qui dit un truc, hein, dans un contexte bien précis, qui prenne le temps de bien écrire, et tu dis ah ben c'est génial, ça veut dire que tel truc. Et tu lis une autre étude sur le même sujet, elle te dit quasiment l'inverse. La troisième va venir nuancer, et la quatrième dit un truc complètement à côté qui a rien à voir avec ce que tu pensais au début.
Ouais.
Et en fait, enfin, sauf à commencer à taper dans des méta-études ou des groupes de méta-études où il y a quasiment tout le monde qui dit la même chose, on est vraiment loin de comprendre comment ça marche.
On est loin de comprendre comment ça marche, mais c'est aussi pour ça qu'il faut continuer de chercher, se creuser la tête, de savoir travailler en équipe, de savoir aller chercher des gens qui sont complètement sur une autre façon de voir les choses pour croiser les opinions. Ça, c'est aussi un peu regret de la science à l'échelle international, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une telle concurrence pour produire des travaux scientifiques que les gens travaillent en parallèle et en silo et pas forcément ensemble, mais ça, c'est le magnifique monde capitaliste global avec lequel on doit faire avec. Et puis, ça aussi, on peut pas le changer du jour au lendemain. Voilà, donc, on est un peu coincé là-dessus aussi.
Ouais. Bon, du coup, si je te demande c'est quoi la recette pour vivre vieux et en bonne santé, si je récapitule, c'est bouger. Mais bouger, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de l'endurance, ça veut dire se faire plaisir en bougeant, ça veut dire peu importe quoi, ou...
Bouger, c'est une certitude, et j'en profite pour glisser que le muscle, c'est le plus gros organe du corps et que personne s'en occupe en médecine, à part un peu les neurologues. Pour certaines maladies hyper rarissimes. On n'a pas de musclologue, malheureusement, qui pourrait nous booster pour la santé de nos muscles. Et surtout, je pense qu'il est important de pas foutre la pression aux gens pour dire de forcément faire du sport. Moi, je veux juste dire, si vous pouvez aller faire vos courses un peu en marchant, porter vos courses en rentrant, c'est déjà super. Si au lieu de prendre la voiture pour faire 5 km, vous pouvez y aller en vélo, c'est génial. Et si après vous prenez goût à une activité physique qui ressemble du sport, au sport, eh ben c'est cool parce qu'en fait il faut avoir du plaisir quand même, un peu de fun, que ce soit avec des copains, en groupe, le côté social est aussi hyper important dans l'activité physique, qui va vous faire revenir au truc. Et à partir de là, que ce soit plus un truc chiant ou une contrainte qu'on se fait pour se faire pour un investissement santé entre guillemets, un peu en mode mange ta soupe de poireaux mon fils, mais que ça devienne un plaisir de manger cette soupe de poireaux pour aller mieux quoi.
Je pense que, enfin, il y a un peu deux écoles, mais autour de moi, tu vois, dans mes réseaux et dans les gens qui viennent en stage, etc., et j'en connais plein, qui font du sport parce qu'il faut, tu vois. Ils vont faire des kettlebells, ils vont faire de la muscu, ils vont faire de la course, ils vont faire tout plein de trucs, un peu en s'obligeant à garder des capacités de mobilité, de santé, de machin, et de pouvoir faire des trucs, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y en a tellement qui font ça par plaisir, et je te remercie de dire ça parce que, en fait, il y a moyen carrément de s'amuser aussi et de se faire du bien en même temps, quoi.
Le jeu. Faut savoir rallumer des fois l'enfant en nous de jouer. Bon, je fais aussi des fois un peu slack à novice dans mon sport, mais des fois je finis la séance de piscine, surtout à la fin, c'est vraiment la fermeture. Je me mets sur le plongeoir et je fais des sauts de gosse, tu vois. Je m'en fous, je fais un saut de comme les gamins, on fait une bombe, on fait le plongeon le plus loin possible, on fait des conneries comme ça. Et essayer d'emmener un ou deux potes à faire des sauts à la con comme quand t'avais 10 ans, tu vois. Et c'est des petits moments de joie facile, quoi. Pour
Non mais c'est
rigoler.
clair, c'est clair.
Ouais.
J'étais avec un pote Bertrand, il a inventé avec mon fils, ils ont inventé le rugby piscine.
Ah ben
Alors,
voilà, parfait.
le rugby piscine, faut que je vous dise c'est quoi le rugby piscine parce que c'est vraiment énorme. T'as un ballon et t'as une bouée, tu vois, une bouée ronde et le jeu c'est que il faut mettre le ballon dans la bouée, dans le trou de la bouée un peu comme au basket. Sauf que on peut déplacer le ballon, évidemment, mais c'est un jeu où on peut aussi déplacer la bouée. C'est-à-dire que si quelqu'un confisque le but et le déplace, il le lance à l'autre bout de la piscine, ben le jeu il change de direction. Et du coup, c'est énorme en fait. Et il y a moyen de se faire mal, je pense qu'il faut faire gaffe aux différences de gabarit parce qu'il y a très vite des coups de pied et des trucs qui partent. Mais c'est hyper intense, c'est hyper drôle, on peut nager, on peut faire de l'apnée, on peut se bousculer, on peut pousser, on peut tirer. Et ça fait un super. Franchement, ça m'a fait un bon training cet été quand j'ai joué avec eux là. Et c'était hyper, hyper, hyper ludique, quoi. Et des trucs
Voilà.
comme ça, on peut en inventer plein, en fait.
On peut en inventer plein, et aussi sinon de un petit peu profiter de s'auto-observer à la fin d'une petite marche, de dire ah bah ouais quand même ça m'a fait du bien juste de prendre l'air quoi et dire bah oui et de quelque part activement activer la mémorisation que ah ouais ça m'a fait du bien de
Ouais.
vraiment le mettre sur la table quoi pour mieux le mémoriser cette sensation et qu'on ait envie d'y revenir que ça nous donne du plaisir et qu'on ait ce petit dopamine qui se sécrète en nous de récompense et de motivation pour le refaire une autre fois.
Ouais. Et toutes les théories sur il faut plutôt bouger le matin, plutôt bouger le soir, plutôt bouger à jeun, plutôt bouger après manger, plutôt machin, en fait, on s'en fout tant qu'on bouge, quoi.
Ben oui, c'est des histoires de rechercher de l'optimisation qui n'a pas lieu d'être. D'abord, quand tout le monde fera bien les basiques, on cherchera à enculer les mouches un petit peu, mais c'est con, hein, c'est chiant, c'est pas sexy, hein. Désolé.
Mais non, mais c'est cool. En fait, moi, ça me libère l'esprit, hein. Parce que moi, je suis un peu du genre stacanoviste aussi, à dire, bon, bah, il faut absolument que je fasse tant de kilomètres, tant de machins, tant de trucs, à noter mes progrès et tout, mais je trouve que ça libère l'esprit de se dire aussi, ben, peu importe, si je fais un truc, c'est déjà super, tu vois.
Ben oui.
Ça déculpabilise, en fait, ça rend le truc moins chiant, en fait.
Ben oui. Et c'est aussi simple que ça.
Et au niveau bouffe, qu'est-ce qu'on mange?
Voilà, c'est encore plus dur parce que la science là-dessus, elle est complètement hétérogène, hétéroclite, voire foireuse.
C'est pour ça que je te pose la question, parce que je sens que tu vas défoncer la gueule à toutes les théories là. Je suis
Non,
tout ouïe.
tu sais que je suis hyper pacifiste et encore plus quand on s'exprime en société.
Oui.
Franchement, j'ai essayé quelques régimes, je me suis intéressé, j'ai creusé des trucs, c'était amusant. des fois difficile, un petit jeune, un truc pour dire que je suis pas obtus. Mais moi, je suis vraiment à croire que c'est in medio stat virtus, quoi. Manger un peu de tout, équilibrer, pas se prendre le chou, voilà, quoi. En plus, problème de la nourriture, c'est qu'on va vite glisser sur des sujets politiques et ou quasi religieux.
C'est vrai.
Mais moi, si j'avais envie de passer quelques messages, l'alimentation, c'est un truc naturel, on ne doit pas le surréfléchir, parce que sinon on perd tout le bénéfice social de manger ensemble, du plaisir en société, et aussi du plaisir individuel qui est intrinsèque à notre mode de vie, à l'humain, que je pense qu'on est quand même plutôt omnivore, mais qu'on a une énorme possibilité d'adaptation. Donc si des gens veulent ne plus manger de viande, bah, ça doit être carrément possible en faisant un peu attention, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, d'avoir assez de vitamines B12 ou des choses comme ça qui pourraient manquer, ou de fer. Je pense qu'on peut vivre sainement, et la nourriture, on a, grâce à notre foie, grâce à notre rein, grâce à notre cerveau, énormément de capacité d'encaisser la nourriture qu'on fait. Et j'ai envie de dire, plus on va bouger, plus on va avoir de marge pour manger plus ou moins comme on veut, quoi, en termes de calories ou de quantité au total. Néanmoins, si je veux être un petit peu quand même donner une opinion perso, je pense qu'il faut essayer, si on peut manger le maximum de trucs frais, éviter au max les trucs industriels, pour des raisons d'apport de sel, notamment, où on va en bouffer par excès, et puis des choses un peu qui ont des goûts exagérés, artificiels, quoi, auxquels on s'habitue, et ça nous fait décrocher de la vraie nourriture, de savoir manger assez de fibres. Ça, c'est par exemple typiquement un point faible sur lequel j'essaie de travailler. Donc oui, mangez vos fruits ou mangez vos légumes, les gars. C'est hyper important pour la santé de notre intestin, qui est quand même un énorme organe de la bouche à l'anus, qui a avec un énorme besoin en fibres pour réguler tout ça. On trouve quand même pas mal d'arguments scientifiques, avec des idées notamment autour de potentiel excès de fer, pour dire que si on mange peu de viande, et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de viande transformée, les charcuteries, etc., qui ont d'autres composés associés à des dérivés de l'azote qui sont pas toujours hyper cool à encaisser par notre organisme. Quand on mange quand même moins de viande, les gens, ils ont plutôt des profils santé un peu meilleurs. Après, est-ce qu'il y a des biais aussi, avec des biais socio-éducatifs autour de la compréhension des risques liés à la viande? Ça peut un peu exister. Personnellement, je mange de la viande, modestement. On essaye aussi pour des raisons écologiques, d'être un peu plus raisonnable sur le sujet. On n'est pas des gros viandards à la maison. Mais voilà. Ce à quoi je crois, c'est manger de tout, vraiment régulièrement, varier les choses, les gars, porter des fibres, parce que là-dessus, on n'est pas souvent pas hyper bon. Et voilà, quoi. N'oubliez pas le côté plaisir, repas en commun. Moi, ce qui m'embête avec les régimes, les modes, les trucs et les machins, c'est que les gens s'excluent. Les gens, ils ont l'impression d'être ensemble sur Internet, dans leur groupe Facebook, leur, je sais pas quoi, mais au vrai de vrai, avec les gens qui sont physiquement à côté d'eux, ils s'excluent. Et c'est chiant, quoi. C'est tellement important, le lien social. On est de plus en plus individualiste et individualisé. Et si on peut plus partager un repas autour d'une table, c'est quand même emmerdant.
On est d'accord. Et puis même, je pense que d'un point de vue scientifique, ça a quand même été démontré que le lien social a un vrai impact sur, enfin déjà pour la prévention des maladies neurodégénératives, parce que ça nous stimule apparemment.
Les gens mariés vivent plus longtemps.
Ouais. Alors ça, je pense que ça dépend avec qui ils sont mariés aussi.
Je suis pas marié, mais.
Mais ouais, les gens qui ont des relations qui considèrent subjectivement épanouissantes et saines, de qualité, vivent plus vieux et en meilleure santé et plus heureux, j'imagine. Ça c'est un truc pour avoir testé pendant super longtemps, en fait, le jeûne intermittent. C'est un des premiers trucs où je me suis rendu compte que c'était vraiment chiant, c'est que je pouvais pas manger avec tout le monde, tu vois.
Et voilà.
Et du coup, je me retrouvais à me faire un café avec un bout de beurre dedans, un truc comme ça, tu vois, en mode café gras, et me mettre à table quand même. Pour au moins faire partie
Avec les
de la
autres.
tribu, tu vois.
Mmh.
Et c'est. Du coup, ben ouais, j'en suis revenu notamment à cause de ça, c'est-à-dire que ben, ça me saoulait trop de pas être à table avec tout le monde et de pas partager le repas
Je crois que
et de
c'est quand
m'exclure.
même une des raisons numéro un que les gens qui font du régime cétogène ou du jeûne intermittent arrêtent leur régime. Hein. C'est la
Ah
perte
ouais, c'est
du
clair.
lien avec les autres.
Surtout que le cétogène, c'est hyper contraignant en fait.
Oui, faut bouffer de la salade à l'huile tout le temps.
Et ouais, et du gras et de la viande, quoi.
C'est
Et
un peu grave.
c'est extrêmement contraignant. Et ouais, pour avoir testé un peu tout ça, j'en suis revenu vachement, enfin pas vite, parce que je me suis un peu quand même acharné, mais.
Et pour un bénéfice, je rappelle, hypothétique, hein.
Ouais. Alors, pour moi, ça a été hyper bénéfique de l'avoir fait quelques semaines, parce que j'ai vraiment senti le moment où mon corps avait réappris à utiliser du gras, tu vois. Je l'ai senti. Ça a été d'un coup j'avais un niveau d'énergie assez stable et j'avais plus les creux de vague dans la journée, tu vois, entre les pics de glycémie et les petites hypos qu'on se fait quand on n'a plus rien. Et de lisser cette courbe-là, ça a été hyper agréable. Mais au-delà de ça, au-delà de je sais pas 3 semaines, tu vois, il y avait pour moi plus aucun intérêt.
Je vais juste faire un petit aparté sur les histoires de pics de haut et de bas, de glycémie, de ah oh, tiens, je suis
Ouais.
pas bien, je suis en hypo, bah 11 h, là, blabla.
Non, mais c'est pas des vrais hippos en général.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et moi, je me suis amusé pour dire que je despise le biohacking, mais que je l'observe et je le teste, parce que j'aime bien tester les trucs avant de voir une opinion. J'ai mis assez longtemps des capteurs de glycémie capillaire comme portent les patients diabétiques, que j'ai payé avec mes petits sous. Et j'ai fait des sports dans tous les sens, du jeûne, du sucre, pas de sucre, avec de l'huile d'olive sur le vélo, enfin des conneries. J'ai observé plein de choses et mes sensations, des fois, elles étaient vraiment pas corrélées à ce que mesurait l'appareil. Alors après, on peut aussi critiquer l'appareil, ce qui est toujours aussi un problème, les fausses mesures, les artefacts, mais bon, quand même, globalement, des trucs assez robustes. Et pour dire que des fois, je me sentais hyper bien, j'étais à 0,6 de glycémie, en courant,
Sérieux?
par exemple, ouais, et des fois, je dis, oh, un peu sluggish, là, un peu ralenti, et il n'y avait pas du tout de variation spéciale, quoi. Et tout ça pour dire que la régulation de l'appétit, de la prise alimentaire, elle est hyper complexe au niveau neurologique et hormonal, et que c'est un truc très ancré en nous, vraiment loin, loin, loin dans la biologie, que de conquérir de l'énergie pour la survie, et
Ah ouais.
que on a toujours ce truc qui nous pousse vers manger, manger quand même, je pense, au fond de nous. Quand bien même on est au courant de toutes les subtilités et qu'on est éduqué sur le sujet aujourd'hui. Voilà.
Moi aussi, j'ai fait des tests avec des capteurs de glycémie quand je te dis que je suis en hypo, moi j'étais vraiment en hypo. Hein. Quand je me fais, je dis, enfin, j'ai un métabolisme un peu bizarre un peu de chasseur-cueilleur qui est habitué à bouffer des cailloux, tu vois. Et dès que tu me mets un peu trop de sucre, je fais un pic de glycémie, mais vraiment énorme. C'est-à-dire que je peux monter à, enfin, en gros, j'ai un pic de glycémie comme un diabétique, sauf que tout de suite, j'ai une sécrétion d'insuline super massive. Et du coup, je redescends en hypo, tu vois. Je fais des hypoglycémies réactionnelles. Et c'est assez dingue parce que avec le capteur de glycémie, je l'ai vraiment vu. Hein, j'ai vraiment vu le yo-yo que ça fait. Et si je bouffe pas, ça me fait aucun yo-yo. Je suis à peu près
Ouais.
stable, tu vois. Ça aussi en fonction de mon niveau d'activité. Si je bouffe normalement, tu vois, plein de fibres et plein de trucs, ça bouge beaucoup moins. Les fibres ont vraiment un effet
Régulé.
de régulation de la glycémie qui est vraiment phénoménal.
Ouais.
Et sinon, ben ouais, tout ce qui est féculent. On va dire un index glycémique rapide, pour moi c'est un gros index glycémique, pour moi c'est vraiment rédhibitoire, quoi. Ça me met vraiment mal. Et je pense que c'est intéressant ne serait-ce qu'une fois d'acheter un capteur et de tester sur une
Ouais,
semaine, tu vois, pour voir au niveau individuel comment ça varie.
c'est un peu cher, mais si vous êtes passionné de nutrition, c'est un truc à essayer, ouais. Et pour le coup, il commence à y avoir des études un peu chez des gens hors diabétiques, et ils montrent une granularité, comme on dit, enfin des tas de une dispersion dans la manière dont les gens réagissent aux aliments, qui est phénoménale.
C'est clair.
Et je pense qu'il y a une dispersion entre les individus, mais aussi pour soi-même, selon le moment. entre manger une banane le matin, le midi, le soir, au milieu de la nuit,
rien à voir,
on va pas répondre pareil, et selon le repas d'avant, et selon comment on bouge, et trucs. C'est pour ça que je trouve, ça, là, c'est vraiment un exemple du biohacking qui est hyper intéressant, les capteurs, et essayer de choisir son alimentation avec ça. Parce que je trouve que c'est quasi mission impossible, ou alors peut-être une super intelligence artificielle quand AGI sera parmi nous, pourra nous dire quoi manger pour être parfait, mais il y a tellement de possibilités, ça paraît infini, de savoir exactement comment garder une glycémie stable avec un éventuel objectif sanitaire derrière cette idée.
Ouais, c'est pas le but.
Sur des mecs hardcore sur le sujet, genre Peter Attia, quand il raconte tout ça, lui, son idée, c'est vraiment de garder la glycémie dans un range hyper étroit, parce que ceci, cela.
Après, mais, tu vis plus, j'ai l'impression que tu t'empêches de vivre pour pas mourir à ce niveau-là, tu vois.
Oui, et c'est ça, tu vis dans la contrainte. Mais en même temps, lui, il dit que c'est un des mécanismes par lesquels marche cet appareil, c'est le biofeedback instantané de j'ai mangé ceci, il se passe cela. Et qui fait que les gens vont s'auto-freiner pour pas être dans la contrition derrière. Donc, bonjour le truc retort psychologique.
Moi, je trouve que c'est intéressant d'utiliser des capteurs comme ça, aussi les trucs de cardiofréquence mètre, tu vois. J'en ai utilisé un pendant un an ou deux pour vraiment calibrer mes sensations sur des fréquences cardiaques et puis apprendre que bon, quand je sens tel truc dans mon corps, je suis à 130, tel truc dans mon corps, je suis à 150, tel truc dans mon corps, je suis à 170, à peu près, tu vois, et puis ça me permet d'avoir des zones, de pouvoir sentir mes zones cardio un peu et faire du travail après un peu ciblé sans devoir avoir besoin toujours du cardiofréquencemètre, justement. Puis pareil pour le capteur, tu vois. Le capteur de glycémie, ça m'a vraiment aidé à sentir vraiment finement mes sensations. L'autre fois, j'ai acheté des chewing-gums, j'étais à la gare, j'ai acheté des chewing-gums, je prends un chewing-gum et je sens une sensation un peu d'acidité ou de brûlure dans mes vaisseaux sanguins. Et là, je fais merde, il y a du sucre dans ce chewing-gum. Tu vois, tellement c'est devenu... Je suis attentif aux sensations que ça fait et je regarde le paquet, je fais merde, il y a du sucre dedans, tu vois. Et je l'ai tout de suite jeté parce que à jeun comme ça, un chewing gum, ça me fait monter en glycémie, puis après je fais une hypo, c'est vraiment chiant. Hein. Mais bref. Et donc, et le capteur m'a permis de confirmer ces sensations-là, tu vois, de me dire, ok, quand je sens ça, ça veut dire ça, quand je sens ça, ça veut dire ça. Et c'est hyper. Je trouve ça hyper précieux d'avoir une confirmation un peu objective de nos sensations et du coup de pouvoir trier un peu ce qui est de l'ordre de la psychose, tu vois. Parce que j'en connais, ils disent ouais, je suis en hypoglycémie, je vais mourir et tout, alors que juste, tu vois, ils ont décalé le dessert de 15 minutes.
Ça, on l'a beaucoup à l'hôpital à l'heure du repas. Oh, je suis en hypo, il faut venir me remplacer.
Je vais bientôt mourir. Yes, donc en gros, manger plein de trucs, manger équilibré, c'est-à-dire plein de fibres et plein de trucs différents et puis plutôt frais et pas des trucs
industriels. Voilà, des couleurs différentes,
avoir des polyphénols dans tous les sens.
Ouais, mais pas trop de cérébral, s'il te plaît. Hein.
Juste des couleurs différentes. Juste c'est couleurs différentes, ouais, il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit bon et il faut que ce soit avec des gens cool.
Ah, c'est l'idéal, on a la recette idéale.
Yes. Et puis bio, pas bio, t'as un avis là-dessus ou pas?
C'est un peu politique. Deux, pas de data de ce que j'avais lu très solide. Donc, je veux pas dire de bêtises. L'intérêt des magasins bio, c'est de trouver des produits un peu différents. Moi, c'est pour ça que j'y vais. Après, je lave un peu les fruits, les légumes et je psychote pas plus que ça sur l'exposition à des produits chimiques. De toute façon, ça fait partie d'une espèce d'une illusion de contrôle, mais je comprends, étant aussi contrôle fric, qu'on puisse vouloir contrôler ça. Mais là, j'accepte que je vais pas savoir exactement parfaitement tout ce qu'il y a sur une pomme. J'essaie juste de dire, je la nettoie, et puis je pense que ça enlève déjà. En tout cas, c'est bien prouvé que juste de rincer et voire brosser gentiment les fruits et légumes, ça enlève l'écrasante majorité d'éventuels résidus de pesticides sur le produit. Hein.
Ouais. Ouais, moi je posais la question un peu pour avoir cette réponse-là, c'est-à-dire que ça me semble assez hasardeux d'affirmer que c'est absolument nécessaire pour la santé de manger bio. Après, c'est un choix aussi, comme tu dis, politique et écologique qui sont, que chacun fait en fonction de son
Voilà.
éthique à lui, tu vois. Mais...
J'ai de la sympathie pour ça, sincèrement. Après, on a déjà plein de contraintes dans la vie. Enfin voilà, moi je voudrais essayer de. Je me fais moi aussi assez de nœuds au cerveau et j'ai envie de donner les messages aux gens, ne vous en faites pas trop, parce qu'on a déjà suffisamment d'emmerdes qui nous arrivent naturellement par le hasard ou la malchance, pour
D'accord.
se prendre le chou au quotidien avec de régenter sa vie de façon micromanagée qui est bien épuisant.
Bah ouais, c'est clair. Et puis le sommeil, tu dis il faut dormir beaucoup, ça veut dire quoi beaucoup? Comment on sait qu'on dort assez?
Bah. Là, il y a aussi beaucoup de variations, hein. Bon, la plupart des gens doivent dormir entre 7 et 8 heures. Voilà. Et après, il y a des gens qui sont en pleine forme avec 5h30, 6 heures. Et d'autres, il leur faut plutôt 10. Bon, c'est plutôt une courbe de Gauss d'après ce que j'ai lu sur le sujet. Donc, si 50% de tes auditeurs très actifs disent, oh non, mais j'ai que besoin de 5 heures. Il doit y avoir une proportion parmi eux qui surjoue le truc, en mode je suis plus fort que les autres. Moi, je pense que, c'est un truc de feeling, comme toi tu décris bien avec la nourriture ce que tu ressens. Moi je ressens assez bien si j'ai assez dormi ou pas, notamment au bout de 2-3 jours, genre la coupure des vacances, zéro réveil, tout ça, et moi assez vite avec 2-3 jours où j'ai dormi 20-30 minutes de plus que d'habitude, je me sens régénéré, et après si j'ai entre mes 7 et 8 heures, je suis content. Là, pas forcément besoin non plus de super gadget pour mesurer ça, je dirais qu'il faut être assez routinier. Et bien sûr qu'il va y avoir des exceptions à la routine, et c'est pas grave, mais de se mettre dans des conditions favorables, d'être assez régulier, et là aussi d'y aller par tâtonnement, par essai-erreur, mais d'éviter les toxiques avant de se coucher, hein, les classiques pièges qui vont nous faire niquer notre sommeil.
Ah, c'est clair, l'alcool avant le dodo, c'est un
Voilà.
truc de fou. Tu vois sur la courbe de la montre, la courbe de sommeil,
Voilà.
tu vois la récup, le pic du nid direct, quoi.
Et on le voit avec la montre, mais tout simplement comment on se sent le lendemain, c'est
Ouais,
tout. Enfin, c'est
ah ouais,
évident,
c'est
non?
clair. Même moi, je le sens moins. Enfin, disons, si je bois un verre de rouge après le repas, tu vois, en discutant dans la soirée, machin, je vais pas forcément le sentir le lendemain, mais la montre, elle le voit par contre, tu vois.
La qualité de récup sera moindre, et si cette habitude s'accumule de jour en jour en jour en jour, de toujours avoir son petit nightcap, comme disent les Américains, du soir, ouais, c'est toujours un problème d'intelligence humaine, du bénéfice immédiat versus la récompense future.
Ben
C'est ça un grand problème de l'alcool pour moi, c'est que oui, j'apprécie un verre de vin ou une bonne bière de Schnapps, mais à 6, 8 heures plus tard, je vais vite le sentir. Donc voilà. Bon, aujourd'hui il y a des bonnes bières sans alcool. Moi j'avoue, j'ai tendance à en boire de plus en plus.
Moi, j'ai arrêté. Je bois des petites infusions de mémé le soir. Là, ça me va bien maintenant. J'ai arrêté l'alcool quasiment totalement depuis presque un an.
Ouais, moi je pense. On peut dire aussi que je bois quasiment pas d'alcool.
Sauf quand on a des stages de kung fu où là on se met un peu des piles, mais c'est vraiment exceptionnel, tu vois. Et
Et
c'est.
c'est. Et ça fait. Bon, on parle sommeil, on parle alcool. Ça, j'aurais. On nous reste plus beaucoup de temps, je crois. Il faut quand même que je glisse, à moins
Vas-y,
qu'on fasse un
vas-y.
épisode total sur tout ça. De dire, les gars, il faut bien manger, il faut bien bouger. Mais l'un des premiers trucs, tu me disais, qu'est-ce qui amène les gens à l'hôpital chez toi? Moi, j'ai le travail en ORL. Alors, vous imaginez bien que les maladies que je vois, c'est lié à l'alcool et le tabac. Et je n'ai aucun jugement vraiment sur le sujet. Je sais que c'est des saloperies, je sais que les addictions c'est compliqué. Mais si vous pouvez travailler à prendre conscience les gens que l'alcool et le tabac c'est des toxiques hyper évidents, c'est vraiment des poisons mais dégueulasses pour votre corps, et que les supprimer ça améliore drastiquement la santé. Moi
C'est clair.
je fais beaucoup de cancérologie ORL, donc c'est hyper biaisé, hein. Mais ailleurs dans l'hôpital, je vous assure, la prévalence de la consommation de tabac et d'alcool, les gens malades, ils ont quand même en moyenne plus consommé de tabac et d'alcool que les autres, quoi.
Ouais, et puis ils ont pas fait de
C'est.
sport. C'est un truc de fou. Je connais plein de gens qui sont des ayatollahs du bio, tu vois, et qui vont te faire la morale si t'as pas des carottes bio, mais qui fument des clopes et qui boivent des bières tous les jours. Et je trouve pas ça cohérent pour le coup, tu
Ben oui, moi j'aime bien la notion de cohérence aussi. Et pour le coup, les toxiques, c'est je sais que c'est difficile de les supprimer, mais moi j'adore le principe de via negativa, less is more, l'idée de enlever des choses pour simplifier et pour que ça aille mieux. Voilà, simple is beautiful, et tous ces trucs que vous ajoutez, de tabac, d'alcool, de trucs, oui, il y a du petit plaisir immédiat. Je peux le concevoir, mais franchement, l'addition à la fin, mais elle est terrible, 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 terrible. Le tabac et l'alcool, c'est comme on finance les intérêts composés, quoi. C'est au début, on voit pas, au début, on voit pas, puis d'un coup, le truc, ça décroche en exponentiel en matière d'emmerde de santé. Et je vous assure, moi, je suis une espèce d'empathique, trop empathique, au point que des fois, ça me génère de la souffrance. Mais si vous saviez le nombre de gens, comme des maboules, et l'alcool encore, et on n'est sans doute pas assez bon pour les aider à s'en sortir de ça, mais si vous avez envie, si vous comprenez que c'est vraiment le point noir pour éviter des maladies, mais vraiment, 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 je vous en prie, creusez cette réflexion sur vous-même, cherchez de l'aide, cherchez des pistes, il y a plein de façons de changer les choses là-dessus. Vapoter si vous voulez, c'est à mon avis 100 fois mieux qu'une clope de rouler ou du paquet du marchand de tabac. Mais je vous en prie, limitez votre exposition à des toxiques. C'est des choses
Et surtout
vraiment
la
évitables.
clope et l'alcool mélangés. C'est typiquement la clope à l'apéro que certains. Enfin, et puis moi de temps en temps ça m'arrive de fumer une clope à l'apéro et là je suis en train d'encore une fois arrêter de fumer et d'arrêter de vapoter et machin. J'ai une espèce de cycle avec ça. Et j'ai vraiment du mal. Hein. Parce que justement j'ai l'impression que ça va, tu vois, que si je fume une clope c'est pas grave, tu vois. Et puis du coup je me fais avoir comme un con et je recommence à fumer une clope par semaine, puis après une par jour, puis après tu vois.
C'est la
Et
dopamine, le cercle des habitudes. Ouais.
ouais, puis je sais pas, enfin après le sujet c'est pas moi, tu vois, c'est plus l'idée c'est de parler de en général, mais j'ai l'impression que c'est hyper corrélé avec l'émotionnel aussi, tu vois.
Ah ouais, les béquilles émotionnelles
Ouais.
aussi, les habitudes aussi, tout simplement. Besoin
Et puis
d'isolement des fois, ou besoin de socialiser, c'est ouais.
ouais. Alors ouais, ça c'est un truc que j'ai identifié, c'est carrément la clope dehors, surtout quand on n'a plus le droit de fumer dedans. Aujourd'hui, la clope dehors, c'est le moment pour moi tout seul pendant 5 minutes, tu vois. Et
Ouais.
du coup, des fois je dis maintenant je vais fumer une clope, sauf que je sors et je respire, je fume pas de clope, tu vois.
Ah, bravo.
Et ça marche aussi en fait. Tu vois,
Quitte à faire deux, trois burpees en passant.
ouais,
Un
et ça me sert
pic.
d'alibi, tu vois, ça me sert d'alibi de me barrer. Et en fait, je vais dehors, je respire, je suis tout seul avec moi-même et je regarde le parking et c'est tout con, mais ça me fait du bien. Et je pense que quand on identifie comment, enfin, c'est quoi les mécanismes qui font qu'on a envie de fumer, des fois, c'est juste des associations à la con, tu vois, genre on a fini de manger avec le café, on a envie d'une clope, ou on a fini de faire un truc chiant, du coup, on a la clope récompense, ou je sais pas quoi, tu
Et tout ce qui t'intéresse à la glycémie,
vois. Ouais.
l'un des mécanismes qui fait que beaucoup de gens sautent sur leur clope du matin, c'est que par l'effet nicotinique notamment, il y a un pic de glycémie qui se fait,
Ah ouais.
que le cerveau voit arriver à toute vitesse avec la première clope du matin. Et bon, voilà, juste pour dire si toi ça peut te faire un peu bouger la ligne sur ce truc, mais que t'aimes pas les pics de glycémie,
C'est clair,
je glisse le message.
mais tu vois, enfin là c'est j'ai re-arrêté, je suis dans une période où je fume pas, tu vois.
Good job.
Et ce que je trouve intéressant, c'est de se concentrer sur les bénéfices aussi, tu vois. Parce que
Ah,
direct,
ouais.
je dors mieux, direct, je respire mieux. Quand je vais marcher ou courir ou faire du vélo, ben forcément, je respire mieux. Enfin, tout va mieux, en fait. Quand t'arrêtes de fumer, tout va mieux. 100% de tout ton métabolisme va mieux. C'est un truc de fou. Et c'est
Et
après 3-4 jours, tu le sens déjà.
ça, c'est mesurable aussi, hein. On
Ah
le
ouais,
voit.
c'est clair. Je pense à la tension artérielle. La saturation en oxygène, tout ce que tu veux, ça doit.
L'inflammation bronchique.
Ouais, clairement. Ouais. Et du coup, ouais, je pense que l'émotionnel, c'est probablement un des trucs qu'on sous-estime aussi dans la santé, tu vois. Et parce que en fait, à cause de problèmes émotionnels, de problèmes relationnels, de plein de trucs qui nous foutent les émotions en vrac. On fait des mauvais choix, on
Oui.
compense avec de la bouffe, on compense avec de la
Oui.
clope, on picole, on prend d'autres toxiques, on va compenser de plein de manières qui sont mauvaises en fait.
On abuse de Netflix.
On abuse de Netflix, on a la flemme d'aller faire son sport parce qu'on est trop déprimé et machin. Alors qu'en fait, la solution à tout ça, c'est de faire du sport, tu vois. Enfin, moi, j'ai l'impression que quand je fais du sport, tout va mieux.
C'est important pour moi aussi. Après, je sur l'émotionnel, je sais que c'est hyper important et malheureusement, je vois l'horloge tourner pour toi et comme pour moi. Et je pourrais en parler longtemps parce que moi, c'est vraiment le peut-être un petit point de faiblesse sur lequel j'aimerais être plus un petit démon intérieur sur lequel je travaille. Mais bon, j'ai toujours des failles et des insécurités, comme disent les anglo-saxons. Et c'est un énorme sujet sur la longévité et le vrai bien-être, bien vivre, bien agir. Et il y a un message que m'a dit un de mes très bons copains il n'y a pas longtemps, sans doute un peu, comment dirais-je, catalysé par sa grande consommation de méditation de Sam Harris, qui est un super auteur anglo-saxon que tu connais, je pense. C'est que c'est normal d'avoir des émotions négatives. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. On est à la recherche d'un perpétuel bonheur qui nous est vendu par toutes ces conneries de pub, de vie, de société de l'image. On est bombardé de gens qui vivent sur la plage à boire des cocktails sur Instagram ou je ne sais quoi, mais c'est complètement faux et débile. Et c'est normal d'un coup de s'énerver, c'est normal d'un coup d'être en colère, c'est normal d'un coup de se sentir frustré, c'est normal parfois de se sentir déprimé. Et ça va être cool aussi des fois d'être content, d'être joyeux. Là, je suis content de faire une discussion cool avec toi, même si je me sens un peu imposteur. Mais bon.
Non.
De rigoler et de machin. Il va y avoir des deux, il va y avoir des hauts et des bas. C'est comme quand on s'entraîne dans le sport, et ben, des fois on pousse les curseurs, des fois on est bien, des fois on est moins bien, des fois on est bien, des fois on se blesse, et puis après on va guérir et ça va aller. Les émotions, juste, ça oscille la plus haute fréquence, et c'est un peu perturbant. Et on nous apprend pas à gérer ça. En tout cas, dans notre culture, on en discute peu, un tout petit peu avec les enfants quand ils font leur colère pour apprendre à réguler ça, mais encore que chez l'adulte, vraiment, j'ai l'impression que pas du tout. Et ça part souvent de démarches très personnelles. On a un peu perdu la religion qui nous guidait là-dessus. C'est à soi de retrouver, je pense, aussi une spiritualité qui peut un petit peu nous canaliser nous donner des repères pour comprendre un peu ce qui se passe en nous. Mais ce grand message qu'on m'a dit vraiment très récemment, c'était un bon moment de joie avec ce pote Mathieu, là, de comprendre que c'est normal d'avoir des hauts et des bas.
C'est clair, et c'est ok quoi.
Et oui, et c'est OK.
Et c'est ok. Et y a plein, surtout les mecs, j'ai l'impression qu'on met un gros couvercle sur les émotions en mode ouais, non, mais moi les émotions c'est pas mon truc, machin. Mais en fait, ce côté macho viril à deux balles, ça nous, c'est hyper toxique aussi, je pense, tu vois.
Ben, ça, je sais pas. Moi, je sais que je peux pleurer facilement, mais je te disais, c'est un point de fragilité pour moi. Toi, c'est vrai que tu as une image de vraiment de grand costaud et tout, une
Moi
icône de
je pleure super
masculinité pour
facilement aussi.
certains.
Moi je pleure super facilement aussi. Je peux pleurer
D'accord.
devant une pub mignonne à la télé, hein, c'est un truc de fou.
Ah.
Oui, je suis capable d'être dur et d'être brutal et d'être tout ce que tu veux, mais ça n'empêche pas. Tu vois, c'est il y a tout le spectre qui est
Grand
disponible.
spectre, ouais, voilà. Grand spectre.
Et je pense qu'il faut s'autoriser, tu vois, à aller mal. En fait, la vraie dépression, c'est quand t'as une petite dépression que tu vois pas en face et que tu laisses pourrir, tu vois. Il faut accepter d'avoir des coups de dent, d'avoir des coups de colère, de se positionner différemment, d'être joyeux, d'être pas content et
Ouais.
de pas résister au mouvement, quoi.
Ouais, après, au bémol de quand on glisse sur de la dépression maladie, de se faire aider et qu'il y a aussi
Oui.
une vraie maladie derrière, des vrais dérèglements hormonaux, des vrais dérèglements biochimiques
Carrément.
et qu'il faut se faire aider aussi. Là, je suis gentil à vous faire un peu de pseudo-méthode Coué ou de allez les gars, bougez-vous, ça va le faire et ou accepter que ça bouge et rester juste observateur. Parfois, des gens, et beaucoup malheureusement, glissent sur des vraies maladies avec un impact sur la santé et sur la longévité, parce que la mortalité par suicide dans nos pays, c'est important,
C'est
et
clair.
que donc il faut savoir regarder ce truc en face et ou dans votre entourage et tendre la main et dire qu'on est là et ou consulter des pros qualifiés pour se sortir de ces ornières, parce qu'il y a aussi des fois des solutions de psychothérapie, des solutions médicamenteuses, des solutions sociales à employer qui demandent de un peu plus que du self-control et de allez, on y va.
Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais Je pense que au contraire, il faut, c'est pas le self-control qu'il faut augmenter, c'est plutôt l'observation de soi-même et puis se dire ok là je vais pas bien, c'est ok, c'est un pas bien normal, tu vois. Et puis la fois suivante, c'est là je vais pas bien, mais ça fait longtemps que ça va pas bien, j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus envie de voir des gens et j'ai tout ce que je fais d'habitude qui me fait du bien, j'ai plus envie de le faire. Là, ça commence à être des petits signaux d'alerte qui disent bon, mais peut-être que c'est plus grave que d'habitude, tu vois. C'est pas juste un petit
Ouais,
coup de pas bien.
tout à fait. Écoute, savoir écouter, et comme pour la santé en général, savoir ne pas mettre le couvercle sur un symptôme, ça va être un message que je voulais glisser, que ce soit des symptômes plus physiques, somatiques, on dirait en médecine, une douleur dans la poitrine quand on court, il faut consulter les gars, faut s'arrêter, voire faire le 15,
C'est
si ça
clair.
serre fort, et bah dire ouais, j'ai un petit nerf intercostal coincé. Hein. Et là, c'est pareil, si on est en souffrance mentale jour après jour, voilà, il faut mettre ça sur la table.
Ouais, carrément, on a le droit. Et ceux qui font des vraies dépressions, c'est pas ceux qui sont faibles, c'est ceux qui ont été forts trop longtemps, tu vois. Et du
Belle
coup,
phrase.
il faut arrêter de jouer les gros durs, il faut demander de l'aide. Faut aller chercher de l'aide. Et puis ça évite de se suicider à petit feu en picolant et en fumant des clopes tout seul chez soi aussi, ce qui est pas mal, tu
Ou en suicider violemment, comme
vois.
ça existe trop souvent.
C'est clair. Yes, il est 15h44, j'ai dit que je partais à 15h45, du coup ça te laisse 1 minute pour dire le mot de la fin si tu veux bien. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire en conclusion et qu'est-ce qui est le plus important là?
Apprenez à vous connaître, trouvez ce qui vous fait du bien et qui est raisonnable. Relax les gars, là, faut pas trop se prendre le chou quoi. Et après, comme je suis un garçon très pragmatique, je dirais que j'espère que les gens vont apprécier ce dont on a parlé, vont avoir envie qu'on continue parce que j'avais plein d'autres trucs que je voulais dire et qu'on est trop juste.
Mais clairement, et moi aussi, j'ai plein de questions encore. Du coup, tu sais ce que je te propose, direct, on prend rendez-vous pour le deuxième volet de ce podcast qui, en fait, là, on commence juste à être chaud en vrai.
Ouais, c'est vrai.
Du coup, il nous faut encore 2 heures de plus, je pense. C'est clair,
Moi aussi, pareil.
j'avoue. Du coup, ben, on raccroche et puis
Ouais.
on reprend rendez-vous direct après.
Ça roule. Merci,
Yes.
David.
Merci à toi. Merci
Ciao.
beaucoup. Ciao, ciao.